déjà parlé, avec comme titre principal la vision divine pour le corps de Christ. On est tous concernés parce que j'espère que vous considérez comme faisant partie du corps de Christ. Et le premier thème dans ce thème, c'était le fait d'être le chrétien sarment. Vous savez, ce chrétien qui est tiré de cette parabole que Jésus a donnée et qui est attaché sur le cep. Le cep qui représente notre Seigneur. Et nous, on est appelés à être ces serments qui portons du fruit. Et je vous rappelle que le fruit qu'on est appelé à porter, ce n'est pas des fruits pour notre propre gloire, mais c'est des fruits pour glorifier notre Seigneur et notre Dieu. Et le fait d'être attaché sur le cep, on l'avait vu ensemble lors de ce partage, c'est que ce que Dieu et ce que Jésus attend de nous, c'est que nous soyons en permanence attachés sur le cep. Qu'est-ce que je veux dire ? Qu'est-ce que Dieu veut dire par là ? C'est-à-dire qu'on n'est pas appelé à être attaché sur le cep une fois par semaine. Par exemple, le dimanche au culte, c'est bien d'être attaché à ce moment-là sur le cep, mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Et en réalité, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on soit attaché sur le cep chaque instant de notre vie, c'est-à-dire 24 heures sur 24, tous les jours et tous les jours de l'année. Et même, Jésus va dire à ce moment-là, au travers de cette parabole, que celui qui ne porte pas les fruits attendus, il sera coupé et jeté au feu. Et donc, c'est important pour nous, enfants de Dieu, de réaliser à quel point c'est vital pour nous qui avons cette espérance de vivre l'éternité dans sa présence. À moins qu'on a envie de vivre l'éternité en enfer. Bon, ça, c'est notre choix. Mais si on a envie de vivre l'éternité avec le Seigneur dans sa présence, alors on considère, on est appelé à chercher, à rester attaché sur le cep. Et qu'est-ce que ça veut dire, être attaché sur le cep ? Eh bien, c'est recevoir cette nourriture. Vous savez, si on prend cette image, Jésus n'a pas pris cette image n'importe comment, pour rien. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Et quand il a partagé ce texte, cette parabole, eh bien, si on prend l'image de cette vigne, la vigne, donc il y a le cep, il y a les racines qui viennent chercher les nutriments, et ces nutriments qui sont transmis par le cep, eh bien, ils sont donnés dans les serments, et les serments, parce que justement, ils sont nourris au travers de ce cep, par cette sève qui monte, eh bien, ces serments produisent du fruit. Et nous, le questionnement qu'on doit se poser par rapport à cette dimension-là, c'est finalement, mais qu'est-ce qui nourrit ma vie chaque jour ? Et bien sûr que nous, en tant qu'enfants de Dieu, au travers de cette parabole, on comprend bien, et c'est même l'essence même de cette parabole, c'est que notre nourriture, ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, on doit la tirer de ce que Dieu attend, de ce que Dieu nous enseigne. Notre nourriture, ça doit être la parole de Dieu, ce qui sont les nutriments avec lesquels on va grandir, on va former notre vie, on va se développer, eh bien, c'est basé sur ce que la Bible nous enseigne. Sur la pensée de Dieu. C'est ça notre nourriture. Et puis, cette nourriture, bien sûr, de la parole de Dieu, eh bien, elle va faire son travail en nous au travers du Saint-Esprit que Dieu nous a donné et que Dieu nous donne. Alors, ça, c'était, je vous rappelle brièvement ce qu'on avait regardé ensemble lors de cette première phase. Et puis, donc, aujourd'hui, je vais vous partager sur le fait d'être un chrétien qui est une lettre lue. Alors, ça, ce n'est pas Jésus qui nous parle de ça, mais c'est l'apôtre Paul qui va partager cela aux Corinthiens. Et en même temps, quand je réfléchis sur le fait de cette notion de lettre lue, bien sûr, j'arrive à saisir déjà tout de suite un petit peu ce que l'apôtre Paul voulait dire. Mais avant d'aller plus loin, on va lire ensemble ce texte. Alors, en tout cas, je vais vous le lire. Je vous lis dans la version Parole de vie, dans 2 Corinthiens chapitre 3, et puis on va lire plusieurs versets. Alors je commence, on lit à partir du verset 1er. Recommencerions-nous à nous recommander nous-mêmes? Ou bien aurions-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? Notre lettre, la seule dont nous avons besoin, c'est vous-même. Une lettre gravée dans nos cœurs et que tout le monde peut connaître et lire. Il est évident pour tous que vous êtes une lettre dictée par le Christ et pour laquelle nous avons servi de secrétaire. Cette lettre n'a pas été écrite avec de l'encre, mais elle a été gravée par l'Esprit du Dieu vivant, et non sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains, dans les vôtres. Si nous avons cette assurance, eh bien c'est du Christ que nous la tenons, parce que nous nous appuyons sur notre Dieu. Car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Toute notre capacité nous vient de Dieu. C'est lui seul qui nous a qualifiés pour être les ministres de sa nouvelle alliance avec les hommes. Or, cette alliance n'est plus basée sur un code de loi écrite, mais elle est basée sur l'Esprit. Car la loi, avec ses commandements écrits, mène à la mort. L'Esprit, par contre, lui, communique la vie. Verset 15. Ainsi, jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile couvre leur compréhension. Mais, comme le dit l'Écriture, lorsque Moïse se tournait vers le Seigneur, il ôtait le voile. Et chaque fois qu'une personne se tourne vers Dieu, alors le voile tombe. Lorsqu'Israël se convertira, son bandeau lui sera enlevé. Et le Seigneur dont il est question, c'est l'Esprit, car là où est l'Esprit du Seigneur, alors là règne la liberté. Or, sans voile, le visage découvert que nous tous nous contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Amen. C'est 2 Corinthiens 3, du verset 1 à 6 et du verset 15 à 18. Voilà ce que j'ai lu. Alors, j'aurais pu tout lire, mais... Alors, le contexte de tout ça, mais je pense que vous qui connaissez la parole de Dieu, vous avez un peu compris de ce qu'il est question. Quand il nous parle du voile, eh bien, il parle de ce qui s'est passé avec Moïse alors qu'il montait sur le mont Sinaï. Souvenez-vous, quand il entrait, quand il allait dans la présence de Dieu et quand il redescendait de la montagne et qu'il allait de nouveau vers les Israélites, son visage était rayonné de la gloire de Dieu. Et donc, il était obligé de se mettre un voile devant son visage parce que les Israélites étaient effrayés en voyant la gloire de Dieu qui se reflétait. Et ce texte nous dit quelque chose, c'est que finalement, cette gloire qui était reflétée au travers de Moïse, cette gloire de Dieu, elle n'est rien comparée à la gloire que nous nous sommes appelés à manifester aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et donc, je reviens à mon thème du jour, l'être lu. Déjà, au travers de ce que je viens de vous dire, eh bien, ce que Dieu veut transmettre, a transmis aux Corinthiens au travers de l'apôtre Paul, c'est de dire que aujourd'hui, je dirais même aujourd'hui nous, comme les Corinthiens de l'époque, eh bien, on est appelé à être sur terre la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte? On est, nous, aujourd'hui, les pauvres êtres humains que nous sommes, les pauvres misérables, eh bien, on est dans les mains de Dieu des instruments pour manifester sa gloire, qui n'est même pas comparable à la gloire qui était manifestée sur le visage de Moïse à l'époque. En tout cas, c'est ce que je comprends de la lecture de ce texte, et puis j'imagine que vous comprenez la même chose que moi. Qu'est-ce qui est dit ici? Eh bien, il est dit que... Je vais revenir. Alors, Paul parle tout au début, si on revient tout au début de ce texte, il nous parle des recommandations, hein, mais ça existe encore aujourd'hui. Par exemple, si vous voulez aller dans certains endroits, quelquefois on a besoin de recommandations. Si vous voulez aller dans un club privé, par exemple, eh bien, vous devez être recommandé par quelqu'un qui est déjà membre de ce club-là, par exemple. Vous devez vous faire recommander. Et ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que finalement, lui, la recommandation qu'il pourrait donner, eh bien, c'est les Corinthiens, c'est l'église de Corinthe, en tant que lettre lue, en tant que lettre écrite. Parce qu'il dit que la recommandation, notre lettre à nous, à moi, Paul, et ceux qui travaillent avec Paul, eh bien, c'est vous les Corinthiens. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. Alors, sans parler de Paul, Paul n'est plus là. Mais il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui encore. C'est Jésus. C'est notre Seigneur. Enfin, je veux dire, si aucun d'entre nous ne serait là ce matin si on pensait que Jésus n'existait plus. Jésus est le Créateur. Il est éternel. Il vit, il est au ciel, il est en même temps sur la terre, parce qu'il est en chacun d'entre nous. Eh bien, frères et sœurs, ce que me dit ce texte, en quelque sorte, c'est que, vis-à-vis de Jésus, eh bien, pour le monde qui m'entoure, pour la société dans laquelle je vis, pour l'église dans laquelle je suis, eh bien, la question que je peux me poser, comme l'apôtre Paul pose là ici, il met en avant cette chose, est-ce que moi, ou est-ce que toi, est-ce que chacun d'entre nous, enfin, dans notre individualité, pardon, j'arrive à le dire, est-ce que on peut dire, je suis une lettre lue, une lettre de recommandation auprès de ceux qui m'entourent, enfin, par rapport au Seigneur, par rapport à Dieu? Est-ce qu'au travers de moi, Jésus est recommandé? C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'au travers de mon attitude, est-ce qu'au travers de la façon dont je vis, est-ce qu'au travers de mes paroles, est-ce que finalement je suis en train, comme je vis, est-ce que je suis une recommandation pour Jésus? Peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrête un petit peu puis qu'on réfléchisse. Hein. Mais quelque part, c'est ce que dit l'apôtre Paul ici par rapport aux Corinthiens. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que finalement, eh bien, c'est ce que Dieu attend de nous, même au travers de la lecture de ce texte que nous avons lu ensemble. D'ailleurs, si on reprend le verset 3, dans ce verset 3, Paul va dire ceci, il est évident pour tous, quand il dit pour tous, enfin tous, ce n'était pas que l'Église, pour tout, enfin pour tous, il est évident pour tous que vous êtes une lettre dictée par Christ. Que vous êtes une lettre qui est écrite par le Seigneur lui-même. Que votre vie est en harmonie, correspond à ce que Dieu veut montrer enfin, à nos frères, nos sœurs, et puis à nos amis, à la société qui est autour de nous. On est, enfin, Dieu désire que nous soyons cette lettre-là. Dieu désire que nous soyons comme une recommandation du Dieu qu'il est envers tous ceux qui sont autour de nous. Quelle enfin, chose glorieuse quand même de la part du Seigneur, vous vous rendez compte? Moi, c'est, quand je réfléchis, je me dis, mais Seigneur, enfin, tu sais qui je suis, quoi. Eh bien, tu veux m'utiliser pour ça? Oui, le Seigneur veut nous utiliser pour cela. Et puis Paul va dire, cette lettre n'est pas écrite avec de l'encre, mais elle est gravée par l'Esprit dans nos cœurs. Et quand la Bible nous parle de nos cœurs, il parle de ce que nous sommes, enfin dans notre être entier. Il parle de notre entité en tant que telle. Il parle de ce que nous projetons au travers de notre vie, au travers de nos attitudes, au travers de nos paroles. Seigneur, j'ai tellement besoin de venir à tes pieds. J'ai tellement besoin de venir me laisser encore une fois transformer par toi. J'ai tellement besoin, parce que, frères et sœurs, quand Paul, allez, je vais dire le Seigneur, parce que c'est Dieu qui inspire Paul, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez sincèrement que ce texte n'est adressé qu'aux Corinthiens? Est-ce que vous pouvez penser sérieusement que Dieu, enfin, que nous ne sommes pas, nous aussi, des Corinthiens aujourd'hui, à qui Dieu est en train de dire cela? Moi, je le crois profondément. Je crois que Dieu désire que moi, Jean-Bernard, eh bien, je sois cette lettre lue. Cette lettre qui est écrite par le Dieu, qui manifeste en moi la vie de Dieu. Et puis, alors, pour cela, il y a une chose, et c'est pour ça que j'aime aussi ce texte, parce que Dieu sait tellement qui nous sommes. Et quand il va dire, au verset 5, Paul va dire, mais... car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Je comprends à quel point je dois m'approcher de Dieu avec un cœur rempli d'humilité. Seigneur, mon intelligence n'est pas suffisante. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de toi. Et Paul va même dire, nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative. Si elle n'est pas inspirée par la pensée et la vie de Dieu, avec mon humanité, et même avec ma plus grande sagesse humaine, ben je suis incapable de saisir la pensée de Dieu. Mais dans sa grâce, par son esprit, frères et sœurs, il y a cette réalité qui est là. Notre petitesse, notre faiblesse, mais il y a aussi cette autre réalité qui est là, qui transpire de ce texte, c'est que tout en sachant ce que nous sommes dans notre humanité et dans notre faiblesse, Dieu vient à notre secours. Parce qu'il nous est dit ici qu'il vient graver par l'Esprit du Dieu vivant dans les tablettes de notre cœur. Quand je m'humilie devant Dieu, je laisse la place au Seigneur pour venir graver en moi ce qui le glorifie, lui. Mes frères et sœurs, c'est vrai, quand on réalise ça, il y a quelque chose qui est mis en avant, c'est le fait que, finalement, est-ce que je veux vraiment glorifier Dieu, quoi? Ou est-ce que ce qui m'importe dans ma vie, c'est que... Que ma vie m'apporte ce que j'ai envie, moi, quoi. Frères et sœurs, l'enfant de Dieu qui est attaché sur le sceptre. Celui, le sarment, le chrétien sarment qui est sur le sceptre, il est là pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Pour dire les choses concrètement, moi, Jean-Bernard, je suis là pour que Dieu soit glorifié. Et puis, j'aimerais que vous puissiez, chacun d'entre vous, vous dire ce matin, moi je suis là, sur cette terre, pour que Dieu soit glorifié. Et C'est Dieu qui nous rend, qui met en nous ses capacités. Si je reprends ce verset 5, je vais le relire de nouveau. Car par nos propres forces, nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit. Nous ne pouvons même pas concevoir une pensée valable de notre propre initiative ou prendre une décision d'après nos lumières personnelles. Mais toute notre capacité nous vient de Dieu. Je ne peux même pas dire ou m'appuyer sur mon incapacité. Parce que Dieu vient et veut venir au secours de mon incapacité. Mais si je dis, par exemple, je ne te reflète pas, Seigneur, parce que dans mon attitude, par exemple, parce que voilà, c'est ma nature. Mais Dieu te dit, mais moi, le Dieu que je suis par mon esprit, je veux changer ta nature pour qu'elle me glorifie moi. Alors est-ce que tu veux vraiment, en fait, est-ce que toi, Jean-Bernard, est-ce que tu veux vraiment? Vous savez, je ne suis pas plus meilleur que vous. Il n'y a pas de plus grand et de plus petit ici. On est tous des pécheurs misérables, mais sauvés par grâce. On a tous en nous. Vous savez, je vais y venir tout à l'heure, parce que, une des manifestations principales où Dieu va dire, l'attestation, cette lettre lue qui est manifestée aux hommes, qui doit être manifestée dans l'Église et qui doit être manifestée dans notre société, je pense que vous avez déjà compris ce que c'est. Ce Dieu va dire, mais à l'amour que vous avez les uns pour les autres, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Il y a cette dimension d'amour. D'amour, pas l'amour selon notre conception à nous, bien sûr, mais l'amour selon la conception de Dieu. L'amour que Dieu nous a montré au travers de Jésus, par exemple. Frères et sœurs, je ne sais pas combien de fois ça vous est déjà arrivé d'aimer votre ennemi. On a tous des ennemis, ou des gens qui ne nous aiment pas, on va dire. Des gens qui nous rejettent, par exemple. Ça fait mal, hein? On a tous vécu un jour ou l'autre des situations où on avait comment est-ce qu'on réagit? Est-ce que, comme Jésus nous l'a demandé, est-ce qu'on est capable de bénir celui qui nous fait du mal? Vous savez, frères et sœurs, quand c'est pas dans notre nature, c'est pas dans la mienne non plus. Mais quand la parole de Dieu vient toucher mon cœur et que je viens humblement devant le Seigneur en disant, Seigneur, tu vois, dans cette situation, l'ennemi, je ne peux pas, Seigneur. Alors viens, parce que je sais que c'est ce que toi, tu veux. Vous savez ce qui se passe? C'est que le Seigneur, comme on l'a lu dans ce texte, nous rend capable. Le Seigneur me rend capable. Et le Seigneur peut rendre capable chacun d'entre nous, frères et sœurs. On ne pourra pas dire à Dieu, mais je ne pouvais pas, Seigneur. Oui, mais Seigneur, je sais que tu ne peux pas. Je ne pouvais pas, Seigneur. Le Seigneur dit, mais moi, je veux te donner la capacité. J'aimerais vous dire, vous savez, j'ai quelquefois entendu, quand je dis quelquefois, c'est même plus que quelquefois, j'ai souvent entendu dire, mais quand je discutais avec des personnes, mais c'est trop simple, Jean-Bernard, de dire ça comme ça. C'est trop simple. C'est pas possible. Écoutez, frères et sœurs, Jésus a dit un jour, si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Un petit enfant croit ce que son papa dit ou ce que sa maman dit. Et comme un petit enfant, en tout cas, celui que je suis, croit que ce que dit la Bible et ce que dit Jésus, c'est possible. Je ne dis pas que c'est toujours simple. Je ne dis pas que c'est toujours facile pour moi. Mais si Dieu me dit qu'il peut me rendre capable d'aimer celui qui ne m'aime pas ou même de bénir celui qui me fait du mal, Eh bien, je crois que c'est possible. Vous savez quoi, frères et sœurs? C'est possible. Je vous le dis parce que je l'ai expérimenté. Et je ne vous partage pas quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Je sais. Vous savez, le plus difficile, c'est quand même, parce que quand des ennemis vous font des crasses, c'est un ennemi. Mais quand des gens que vous aimez vous font du mal, c'est encore plus difficile. Mais si avec nos propres forces on n'est pas capable, comme on l'a lu dans ce texte, Dieu nous rend capable. Moi, je vous le confirme. Alors, si vous ne croyez pas, allez de dire au Seigneur, ben, tu mens. Mais Dieu ne ment pas. Dieu nous rend capable. Et voyez-vous, c'est vrai que des fois, on a l'impression que Dieu met la barre tellement haute. Je vous disais, enfin, ce texte nous dit qu'on est là sur cette terre pour montrer, pour être la gloire de Dieu. Verset 18, je relis. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, donc nous, enfants de Dieu, eh bien, nous contemplons comme dans un miroir, oui, parce que on n'est pas encore dans le ciel. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. On a encore nos limites sur cette terre, c'est vrai. Mais le verset 18 ne s'arrête pas là. Il continue en disant, ainsi nous sommes constamment transformés. On est dans un processus. Nous sommes constamment transformés comment ? D'après son modèle. Je ne suis pas transformé d'après le modèle de Moïse, ni d'après le modèle de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, ni d'après... Enfin, voilà, je ne suis pas transformé d'après le modèle d'un grand homme de Dieu. Je suis transformé d'après le modèle de Jésus. Est-ce que tu es transformé? Je vais le dire autrement. Parce que, enfin, quand je vous parle, je me parle à moi aussi. Hein. Je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas plus grand que vous. J'ai la même nature à la base que vous. J'ai les mêmes combats. Mais, frères et sœurs, on doit avoir en nous ce désir profond d'être transformé d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et de refléter une image toujours plus fidèle de sa gloire. C'est ce que dit Paul. Est-ce que c'est fou? Est-ce que Paul est en train de mentir, frères et sœurs? Je ne crois pas. Je crois que c'est le désir profond du Seigneur pour chacun d'entre nous. Qu'on soit réellement la lettre lue. Cette lettre qui montre Jésus dans mes paroles, dans mes actions. Ça, c'est comme ça qu'on montre la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, enfin, je suis tellement percuté par ce texte, je le dis comme ça. Parce qu'il nous dit qu'on est chacun, enfin, l'enfant de Dieu, celui qui est ce sarment qui est greffé sur le sel, qui reçoit cette nourriture, qui reçoit pas sa nourriture de la société, pas sa nourriture des pensées humaines, mais qui reçoit sa nourriture, qui a son esprit, son cœur changé, transformé par la parole de Dieu, par la pensée même de Dieu, par le Saint-Esprit qui vient toucher nos cœurs. Alors, il nous dit qu'on est transformé d'après son modèle à lui pour lui ressembler davantage jour après jour. Jour après jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, si je laisse Dieu agir en moi, je lui ressemblerai un peu plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui, ou si hier, par exemple, je n'ai pas réussi à pardonner à mon petit frère ou à ma petite sœur ou à que sais-je, eh bien, demain, parce que je vais laisser Dieu travailler ma vie et mon cœur, je vais lui ressembler davantage. Eh bien, je vais pardonner comme Jésus pardonne. Je vais aimer comme Dieu aime. Ce texte nous dit qu'on va refléter une image toujours plus fidèle. Ça veut dire que peut-être aujourd'hui, je reflète pas encore parfaitement l'image de Jésus. Ça veut dire que Dieu le sait. Mais ça veut dire que je ne dois pas m'arrêter en chemin. Ça veut dire que je dois continuer à chercher à refléter un peu plus Jésus. Que ça doit être ma motivation. Que je dois désirer être cette lettre vue. Et puis, ouais, ça me touche tellement quand je lis ça, c'est que je suis appelé à lui ressembler davantage de jour en jour et refléter une image toujours plus fidèle. Et ce verset se termine par en disant sa gloire, la gloire de Dieu, sa gloire devient progressivement nôtre. Jésus a dit, alors qu'il était encore sur cette terre, qu'il nous donnerait sa gloire. Alors qu'il arrivait à la fin de sa vie, frères et sœurs, est-ce que je suis tellement intéressé à refléter la gloire de Jésus? Est-ce que je suis vraiment intéressé à refléter la gloire de Jésus? En tout cas, Paul va dire aux Corinthiens, il ne pourrait en être autrement. Frères et sœurs, cette parole me dit quelque chose. Elle me dit que moi qui suis le chrétien sarment, vous voyez, celui qui est accroché sur le cep, celui qui est... qui porte du fruit, eh bien, je ne peux pas faire autrement que de manifester la gloire de Jésus. Je peux pas vivre autrement que d'être dans ce cheminement où demain, ben, je reflèterai un peu plus, je ressemblerai un peu plus à Jésus qui est. Vous savez, c'est un processus jusqu'à la fin de nos jours. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça s'arrêtera le jour où on sera avec lui là-haut, dans le ciel. Et Paul va dire aux Corinthiens, il ne saurait en être autrement parce que celui qui agit en vous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Quand nous, on n'est pas capable, frères et sœurs. Quand nous, on n'est pas capable. Dieu, par sa grâce et son esprit, eh bien, nous rend capable. Dieu reste Dieu, quelles que soient les circonstances de notre vie. Dans les moments les plus difficiles, vous savez, on vit tous des moments de joie dans notre vie terrestre, et puis on vit aussi tous des moments de tristesse, et même quelquefois des moments de détresse. Et pourtant, Dieu reste le même. Il ne change pas. Vous savez quoi? Alors que nous sommes peut-être concentrés sur notre vie terrestre, et puis ça paraît logique, le regard de Dieu sur chacun de nous s'arrête sur la réalité céleste et l'éternité. Vous savez quoi? Dieu ne nous cache rien dans sa parole. Dans la Bible, Dieu ne nous cache rien, il ne nous prend pas en traître. La Bible nous dit qu'on est tous libres. Personne ici n'est obligé de refléter la gloire de Dieu. Et personne dans notre société, personne dans le monde n'est obligé par Dieu à devenir comme lui. Dieu n'oblige personne. Mais Dieu nous le dit, il nous prévient, il nous dit qu'il y a deux choses, encore une fois, il y a le paradis éternel et puis il y a l'enfer éternel. Et que les choix que je fais aujourd'hui orientent, soit je choisis de suivre le Seigneur librement. Et puis, Dieu me recevra au paradis. Soit je choisis de prendre le chemin qui ne glorifie pas Dieu, qui m'arrange dans ma vie terrestre, peut-être, mais qui m'emmènera en enfer. Frères et sœurs, nous sommes appelés à une lettre qui glorifie Dieu. J'aimerais vous redire ce matin, je ne sais pas comment vous le dire, mais j'aimerais vous redire ce matin à quel point c'est vrai ce que Dieu dit, c'est vrai ce que Jésus dit. Et c'est vrai que quand mon âme charnelle et mon humanité dit « c'est pas possible », avec Dieu c'est possible. Dieu nous délivre. Dieu nous garde, Dieu nous aime. Dans 1 Jean chapitre 4 au verset 17, Jean va dire, si l'amour est parfait en nous, alors nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous lis la suite, hein. Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. On aurait certainement, frères et sœurs, je vous dis ça comme ça, intérêt à se poser peut-être tous les jours cette question. Et avant d'aller se coucher le soir, dire « Seigneur, je viens devant toi, je veux réfléchir un petit peu à mon attitude de la journée. Est-ce que ma vie vraiment à proclamer ta vie aujourd'hui. Peut-être que pour chacun d'entre nous, ce serait quelque chose d'utile. En tout cas, c'est ce que Jean a dit. Si l'amour est parfait en nous, alors nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Parce qu'un jour, il y aura un jugement. Pourquoi ? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Dans Romains, au chapitre 12, ce texte, on a travaillé dessus pendant quelques mois. J'aimerais vous le relire. Je vous demande donc, frères et sœurs, bon, c'était pas marqué frères et sœurs, mais ça revient même, c'est marqué frères, mais je rajoute sœurs. Je pense que c'est sous-entendu. Je vous demande donc, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, à cause de la bonté que Dieu m'a témoignée, je sais que Dieu est bon pour moi. Alors, à cause de sa bonté, je vous demande donc de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces, et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Si je m'arrête là, déjà pour vous dire de nouveau, je sais que vous le savez bien, mais frères et sœurs, les enfants de Dieu ne sont pas là sur terre pour vivre une religion. on est là pour vivre une vraie relation avec le Seigneur. Pour être réellement, vous savez, à quoi ça sert d'aller à l'église si on n'est pas des hommes et des femmes qui consacrons à Dieu notre être entier, comme c'est qui est écrit dans ce texte. Que si on ne met pas tout ce que nous sommes à la disposition du Seigneur comme cette offrande vivante, sainte, qui plaise à Dieu, à quoi ça servirait ? Ouais, on serait en train de vivre une religion, frères et sœurs. On ne serait pas en train de vivre cette relation avec le Seigneur. On ne serait pas en train de manifester la gloire de Dieu. On ne serait pas en train de devenir et d'être dans cette progression, d'être cette lettre lue qui reflète Jésus. Dans ce texte, il est dit que ça, c'est le culte que Dieu attend de chacun d'entre nous. Si je ne me trompe pas, il me semble, c'est dans Amos où il est écrit que il est parlé donc des Israélites de l'époque où Dieu va dire qu'il haït leurs assemblées, enfin leurs louanges, leurs cultes. Il me semble que c'est dans Amos, je crois, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient qu'une religion ? La religion ne nous sauvera pas, frères et sœurs. Ce qui va nous sauver, c'est Dieu. Enfin, c'est notre salut en Christ, quand on est attaché sur le sceptre, quand on laisse couler en nous la parole de Dieu qui vient travailler nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, je continue dans Romains. Du coup, Paul va dire aux Romains, ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Alors, il a écrit ça il y a 2000 ans, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, mais laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation, celle qui plaît à Dieu, afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, et ce qui vous conduit à une réelle maturité, si on est les uns et les autres réellement sur ce bon chemin. Il y a plein d'enseignements dans la parole de Dieu. J'aimerais continuer en lisant un autre texte encore, Philippiens, chapitre 2. Voilà ce que, enfin, en tout cas dans l'Église, c'est ce qu'on devrait voir. Enfin, quand je dis dans l'Église, je parle du corps de Christ. Je ne parle pas des religieux, je parle de nous, enfants de Dieu, qui vivons cette relation avec le Seigneur. Paul va dire aux Philippiens, faites tout sans murmure ni plainte. Vous savez quoi, ce qui se passe dans le monde? On voit tout le temps des gens qui sont en train de se plaindre des autres. Ça, c'est d'ailleurs dans notre nature, quand même, hein, un petit peu. Enfin, au moins un petit peu. Même beaucoup, quelquefois. Hein, on a toujours tendance à se plaindre de l'autre. Ça me fait penser à cette, encore une fois, cette parabole de Jésus qui dit, ce serait bien quand même que tu, à la place de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. Hein. Faites tout sans murmure ni plainte. Vous savez quoi, dans l'Église, dans le corps de Christ, on ne se plaint pas les uns les autres. Vous savez pourquoi ? On est là pour être des serviteurs les uns des autres. Moi, je suis là pour vous servir, vous êtes là pour... on est là pour servir les uns les autres. Parce qu'en se servant les uns, les autres, on est en train de servir le Seigneur. Faites tout sans murmure ni plainte. Ne soyez pas de perpétuels mécontents ou hésitants. Mettez-vous en garde contre tout esprit de contestation et de doute. Alors, personne ne saura vous trouver en faute, en tout cas devant Dieu. Vous pourrez vous présenter en homme ou femme, irréprochable, net de toute fausseté, en authentique enfant de Dieu, au sein d'une humanité dégénérée et corrompue. Enfin, oui, ce texte, encore une fois, il a été écrit il y a 2000 ans. Mais si on regarde notre société aujourd'hui, je ne peux pas dire autrement que c'est tellement plus vrai encore aujourd'hui. Et ça sera encore certainement plus vrai demain. En tout cas, on est appelés, nous, enfants de Dieu, à être différents du monde. On est appelés à être différents, à ne pas laisser, à ne pas agir avec notre humanité, enfin notre nature adamique, comme je l'ai appelé, mais à faire vivre en nous cette nature divine, celle qui nous vient de Dieu. Alors, Paul va dire aux Philippiens, je continue, en cette époque perverse et dépravée, vous, donc nous, enfants de Dieu, vous brillez comme des foyers de lumière au milieu d'un monde enténébré. Enfin, je pense qu'on est tous capables de comprendre que si nous, enfants de Dieu, nous agissons comme le monde, ben on ne sera pas là pour éclairer le monde. Hein. Si je veux éclairer le monde, si je veux être la lumière du monde, comme a dit Jésus, et le sel de la terre, comme il l'a expliqué dans une autre parabole encore, bien, je dois être celui qui manifeste la gloire de Dieu en vivant avec la sève qui nous vient de cette parole de Dieu, en me nourrissant de cette nature divine qui va me changer, me transformer pour montrer à ceux qui sont autour de moi la nature de Jésus, la gloire de Jésus. Oui, on est là pour briller comme des foyers au milieu d'un monde enténébré. Et au verset 16, il va dire, mais vous êtes des porteurs de la parole de vie. On revient à cette notion de l'être lu. On est des porteurs, enfin, dans notre nature, dans nos comportements, dans nos paroles, dans ce qu'on manifeste dans la société, on est des porteurs de cette parole de vie. C'est-à-dire qu'on est des gens, des personnes qui vivons en nous la Bible. Et je relis ce verset, vous êtes des porteurs de la parole de vie. Présentez-la au monde en ce que nous sommes. Ce n'est pas seulement en présentant, en donnant des Bibles. On doit être nous-mêmes, enfin, vous comprenez ce que je veux dire en disant ça. On doit être nous-mêmes, enfin, un vécu de la parole de Dieu. Vous êtes des porteurs de la parole de vie. Présentez-la au monde. Et lorsque viendra le jour du Christ, alors j'aurai un sujet de fierté et de joie. Vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'ai pas couru à l'aventure ni peiné en vain. Ça, c'est ce que dit l'apôtre Paul, mais toute la gloire revient à Jésus, à Dieu. Seigneur, continue à m'interpeller, moi, Jean-Bernard, parce que je sais tellement que je ne suis pas encore arrivé. Et ma prière, frères et sœurs, pour chacun de nous, c'est que Dieu puisse continuer à nous interpeller. Frères et sœurs, j'aimerais vous redire ce matin. Gravez, s'il vous plaît, ces choses dans votre cœur. C'est que ce que Jésus a fait alors qu'il était sur cette terre, il nous l'a fait pour nous montrer un exemple que nous devons suivre. Que tout ce qu'il nous a dit, il nous rend capable de le faire. Jésus a dit, j'ai fait des grandes choses, et vous, vous en ferez des plus grands. Comment est-ce que je pourrais dire aujourd'hui, moi je ne suis pas capable de faire comme toi, Seigneur. Je ne suis pas capable d'aimer comme toi. Ah oui, ça c'est sûr. Si on veut agir avec notre propre nature, on ne sera jamais capable, frères et sœurs. Mais, si à la place de dire « je ne suis pas capable », je viens devant Dieu, je dis « Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas capable, mais je sais que toi, tu peux me rendre capable. Alors par ton esprit, viens toucher ma vie, viens changer mon cœur, viens faire de moi cette lumière qui brille dans le monde, viens faire de moi ce sel de la terre, parce que c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Personne ici n'est exclu. Je ne suis pas exclu, mais vous n'êtes pas exclu non plus. Personne d'entre nous. On est là pour être véritablement une lettre lue devant tous les hommes. On est là pour être, comme je le disais quand j'avais partagé sur le chrétien serment, on est là pour être des Jésus sur terre. Ça paraît peut-être prétentieux, mais c'est ce que Dieu attend de nous. Alors j'arrêterai là ce matin peut-être qu'on peut prendre un temps devant Dieu maintenant, se placer les uns les autres, parce que vous savez quoi, on n'est pas là pour se mettre devant des hommes, si ce n'est devant nous-mêmes, mais on est là pour se placer devant Dieu et dire « Seigneur, viens sonder mon cœur, viens me montrer ce que je suis vraiment. » Si toutefois on a envie que Dieu change notre être pour que sa gloire soit manifestée au travers de ce que nous sommes. Je vous invite à prier peut-être intérieurement, mais prenez ce temps devant la face de Dieu. Ce qu'on a vu ce matin, c'est quelque chose de tellement important pour le Seigneur, mais aussi pour nous-mêmes en réalité.